Je présente Cécile qui a accouché de deux jumeaux, c'était en janvier, au décembre.
En décembre.
Et donc qui a été un petit peu absente et qui fait bien partie de l'équipe. Alors elle a une raison d'être à ma droite. C'est que nous allons aborder la question délicate de la procréation artificielle. Et Cécile est médecin. Voilà, j'ai le droit de présenter les compétences de Josiane en tant que psychothérapeute. Donc nous allons faire plusieurs voix, j'espère harmonieux, sur cette question où l'enseignement de l'Église, comme pour la contraception, est très mal reçu et surtout mal compris. Alors, je n'ai pas l'intention de toucher toutes les questions. Je ne parlerai pas de la question du clonage. J'ai l'intention de toucher les points essentiels et les plus difficiles à comprendre. Bon, le premier point, c'est la question du respect inconditionnel de l'être humain dès sa conception. Ça peut sembler assez simple, mais nous verrons que la question... Elle a besoin d'être approfondie dans notre cœur et dans notre intelligence. Et le deuxième point, c'est donc plus proprement la procréation artificielle, l'originalité de la transmission de la vie humaine, comme dit le De Novitate. Voilà. Alors je vais essayer de donner la lumière de la foi. Il y a deux manières de traiter ces questions-là, où on se dit il faut les traiter d'une manière philosophique pour que ce soit mieux compris par les gens qui n'ont pas la foi, ou alors on fait l'option radicalement contraire, enfin en tout cas l'autre option qui consiste au contraire à mettre toute la lumière de la foi sur ces questions-là et de montrer la beauté et la cohérence de ce que l'Église dit. Moi, je crois que même des gens qui sont non-croyants, si on montre dans la lumière de la foi la vérité profonde de ce que l'Église enseigne, ça peut difficilement ne pas toucher les esprits, parce qu'en définitive, ce qui touche, c'est la lumière du Christ. Et ici, nous allons mettre le projecteur de la lumière du Christ. Donc, je vous appelle à écouter avec l'intelligence du cœur, pour essayer de comprendre en profondeur des choses que, personnellement, j'ai méditées depuis des années. J'ai eu la grâce de pouvoir faire l'Institut Jean-Paul II pour le mariage et la famille. Question-là, je les ai étudiées énormément, mais je les ai étudiées il y a 20 ans, donc au niveau proprement des chiffres et de la technique, je date un peu. C'est pour ça que j'ai demandé à Cécile de venir à mon secours. Et aussi au niveau des recherches qui ont été faites au niveau psychologique, notamment sur la conséquence de la procréation artificielle au niveau des enfants, il y a évidemment des progrès depuis 20 ans. Donc j'ai demandé à Josiane de venir à mon secours aussi. Mais l'essentiel n'est pas là, l'essentiel il est dans la compréhension des principes. Le premier principe qui va éclairer tout le reste, je le répète parce que nous l'avons déjà vu au sujet de la contraception, c'est que procréation signifie pas création. Il n'y a que Dieu qui crée. Les époux ne font que poser les conditions de l'avènement d'une nouvelle vie, mais c'est Dieu qui crée l'âme. Et ça, dans un acte particulier, cette âme spirituelle, créée par Dieu, l'Église de plus en plus nous invite à penser qu'elle est créée dès le moment de la conception. Alors, à un niveau, je dirais, au niveau de la foi, je suis obligé de dire qu'il ne s'agit pas d'un dogme, parce que l'Église n'a pas encore voulu engager son autorité dogmatique sur cette question-là. Mais toutes les questions qui touchent autour de l'avortement l'ont obligé à approfondir sa contemplation du mystère, et elle dit que tout nous signifie que cette création de l'âme spirituelle a lieu dès la conception. Et Jean-Paul II a appuyé la position de l'Église par rapport à cette question-là en disant que l'enjeu est si important que la seule probabilité de se trouver en face d'une personne suffirait à justifier la plus nette interdiction de toute intervention conduisant à supprimer l'embryon humain. Autrement dit, même si on doute que l'âme spirituelle soit vraiment créée dès la conception, dans le doute, on ne peut que respecter. Voilà l'enseignement précis de l'Église sur cette question-là, sachant que dans d'autres religions, par exemple dans la religion juive, on considère qu'il y a animation, si mes souvenirs sont bons, au bout du 40e jour. Saint Thomas d'Aquin, au Moyen-Âge, voyez, a pensé que l'animation commençait au 6e mois, parce que c'est à ce moment-là que Saint Jean-Baptiste a tressailli. Mais il faut reconnaître que l'argumentation est un peu faible. Voilà. Mais à vrai dire, l'Église est la seule au niveau comme religion à tenir jusqu'au bout cette question d'une animation dès la conception. Mais les recherches au niveau du progrès de la génétique montrent que, de fait, tout est déjà présent dès la conception, en germe. Alors, le deuxième principe, c'est que Dieu nous a aimés et connus avant que nous existions. Ça, c'est très difficile à concevoir. Mais il nous a vus, il nous a connus et il nous a aimés avant la fondation du monde. Je ne suis pas aimé parce que j'existe et que je suis bon. J'existe parce que je suis aimé. Nous sommes tous le fruit d'un amour éternel et qui nous a prédestinés. C'est-à-dire, Dieu nous a connus, aimés et voulus pour lui. C'est-à-dire, il a voulu nous partager sa vie divine, se donner à nous, à chacun de nous, dans un acte, une décision qui s'appelle la prédestination. En bonne théologie, la prédestination, c'est la décision que Dieu a prise avant la fondation du monde, avant la création du monde visible, de se donner à notre âme spirituelle, mais se donner en réalité à toute notre humanité, puisque c'est toute notre humanité qui est destinée, avec la résurrection des corps, à être entièrement pénétrée par Dieu. L'homme est la seule créature voulue pour elle-même, du monde visible, je ne parle pas des anges. Donc, il faut penser que la création, c'est le don de l'existence, qui est le premier moment de la réalisation de notre prédestination. C'est-à-dire, Dieu nous donne l'existence avant de se donner lui-même à nous, de nous donner sa grâce. Mais il n'y a aucun d'entre nous qui existe par hasard. Encore une fois, si nous existons, c'est que nous avons été prédestinés. Donc notre vie est le fruit, cette création de l'âme, ce don de l'existence, au moment de la conception, c'est le fruit, au sens le plus fort, de l'amour de Dieu. D'un amour qui nous enveloppe. Dieu est à la fois un père et une mère, dit Tertullien. Un amour qui nous enveloppe, qui nous porte. Et on peut dire ici que la conception d'une nouvelle personne humaine est un événement infiniment plus important que la création de tout le monde visible. Puisque tout le monde visible a comme finalité la prédestination, la réalisation de la prédestination de l'homme. Et de c'est de là d'où découle l'originalité de la transmission de la vie humaine. On peut faire de la procréation artificielle avec les vaches, les animaux. L'Église n'y voit strictement aucune difficulté. Mais il y a un abîme entre ce qu'est la conception d'une personne humaine et la conception d'un animal. Alors, parce que l'Église voit l'homme dans la lumière de l'éternité à laquelle il est appelé, elle a foi en un Dieu créateur qui en même temps, tout de suite, en même temps un Dieu sauveur. Quand j'ai dit Dieu sauveur, c'est le Dieu qui nous appelle à rentrer dans son royaume, qui veut nous partager sa vie. Et donc, de là découle la confiance en la valeur de la vie. La valeur de la vie, de notre vie sur terre, c'est la valeur d'un chemin vers l'éternité divine, l'éternité de notre participation à la nature divine qui nous attend. Et donc, comme le dit le cardinal Ratzinger, la vie physique, c'est pas le bien suprême, puisque le bien suprême, c'est la vie éternelle. Mais la vie physique, elle est la valeur fondamentale parce qu'elle est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Elle est le chemin sur lequel Dieu veut, jour après jour, nous rapprocher de cette vie divine. Et donc, en ce sens-là, elle constitue la valeur fondamentale. Vous voyez, l'Église qui relativise en réalité la vie physique, humaine, terrestre par rapport à la vie éternelle, du fait, en même temps qu'elle relativise cette vie, donne à cette vie terrestre toute sa valeur. Tandis que, comme nous allons le voir, dans un monde qui ne voit pas la vie humaine dans la lumière de la vie éternelle, la vie humaine qui est pour le monde le seul absolu, finit par perdre sa valeur. Nous en sommes témoins. On exalte cette vie comme étant la seule chose à vivre, profiter de la vie à tout prix, et en même temps, on finit par la détruire. Par installer une culture de mort. Alors, si on y réfléchit plus profondément, on s'aperçoit qu'on vit dans une société post-chrétienne qui a gardé des valeurs chrétiennes, comme l'affirmation de la dignité de la personne humaine. Mais comme on ne voit plus le sens de l'homme, qu'on ne voit plus l'homme dans la lumière de sa prédestination, eh bien, on finit par ne plus en voir sa valeur et sa grandeur, à ne plus être capable de percevoir vraiment cette dignité. Donc, on a des valeurs chrétiennes creuses, si je puis dire, privées d'une vision forte, qui donne la force de la sauvegarder, cette vie humaine jusqu'au bout. En fait, si le monde est de plus en plus froid et inhumain, tout en se voulant humaniste, c'est parce qu'ils manquent de sagesse et d'espérance tout à la fois. La perte du sens de la vie entraîne la perte du respect de la vie. Ici, on comprend que la question de l'avortement comme celle de l'euthanasie, en fait, ont leur racine dans la non-perception de la, du vrai sens de cette vie, même quand elle naît dans des conditions qui sont douloureuses. Mais c'est là, voyez, où la foi que toute personne humaine, même née dans des conditions qui ne sont pas celles qu'on aurait souhaitées, conçues dans les conditions qui ne sont pas celles qu'on aurait souhaitées, cette foi que cette personne humaine, si elle existe, c'est qu'elle a été aimée et voulue et prédestinée par Dieu, encore une fois, dès avant la fondation du monde. Et que pour elle, Dieu a payé le prix en donnant son Fils. On comprend bien que s'il n'y a pas cette espérance, cette grande espérance, que toute vie est porteuse d'un avenir qui est l'éternité, bienheureuse que Jésus nous a acquise par son propre sang, s'il n'y a pas cette espérance, cette grande espérance, comme dirait Benoît XVI, c'est évident qu'il manque la force pour assumer et pour porter la vie jusqu'au bout. Donc ici, je n'entends pas apporter un jugement moral sur les personnes qui ont avorté, mais montrer que derrière l'avortement, il y a d'abord un drame spirituel, celui de notre temps, qui est la désespérance. Désespérance, perte de sens, aveuglement, finalement affaiblissement de l'esprit. Nous avons tous besoin de nous convaincre qu'il n'y a aucune vie qui soit condamnée au malheur, même si à l'origine elle n'a pas été désirée. Ici, j'ai des notes qui ont été prises sur je ne sais pas quel document d'Internet qui dit la souffrance des parents qui se décident à détruire les embryons. Ces embryons tant désirés et obtenus au bout de ce qui s'apparente à un parcours de combattant. Alors, un père témoigne, c'est comme si je signais l'arrêt de mort de mes enfants. Bon. Le responsable médecin du centre d'études dit, on arrive à s'en sortir en partant du projet d'enfant. L'embryon est quelque chose à partir du moment où il a un avenir dans la tête de ses parents. L'embryon est quelque chose à partir du moment où il a un avenir dans la tête de ses parents. C'est l'homme qui prend la place de Dieu, parce qu'il n'y a pas de Dieu. Donc il n'a pas un avenir dans la tête de Dieu, si je puis dire, cet enfant, mais il n'a de valeur que s'il a un avenir dans ma tête à moi, parce qu'il n'a pas de père au ciel. Elle est là, la désespérance. C'est mon projet sur lui qui lui donne sa raison de vivre. C'est pas le projet de Dieu. Voilà, ça c'est le drame de l'humanisme athée. Mais évidemment, si on est nous-mêmes celui qui porte tout et qui donne sens à tout, vu l'expérience que l'on fait de notre faiblesse, je ne vois pas comment on aurait la force, effectivement, de porter cette vie jusqu'au bout. Moi, je comprends très bien que des femmes qui ne sont pas portées par une grande espérance puissent avorter, finalement, en pensant que, quelque part, c'est mieux pour l'enfant. si ce n'est pas Dieu qui porte tout. Mais on en arrive à faire quelque chose qui est en même temps complètement contraire à ce qui est inscrit naturellement dans le cœur d'une femme. Nous reparlerons de ça la prochaine fois. Je voulais simplement insister là-dessus pour montrer ce qui est le fond du drame par rapport à la relation qu'on a à la vie. C'est que tout simplement l'homme moderne se conduit comme s'il était son propre créateur. Alors, je dirais qu'il y a un grand oui de l'Église à la vie, un oui qui n'est pas le sien, qui est le reflet du oui de Dieu. Qui est plutôt la réponse à ce mystère de la prédestination. Et de ce grand oui de l'Église découle un certain nombre de non à des pratiques qui sont rendues possibles par la technique, qui sont banalisées, et vis-à-vis desquelles je me permets de faire quand même quelques petites listes de choses auxquelles on risque de ne pas être assez attentif. Il y a de plus en plus de techniques qui sont présentées comme contraceptives et qui sont en réalité abortives. Je ne vous apprends rien en vous disant ça. Il n'y a pas que la question de la pilule du lendemain, mais il y a aussi la question de pilules ayant un effet aussi anti-natatoire. Ça, c'est normalement indiqué, dans ce qui est la présentation du produit. Il y a marqué normalement effet antinidatoire, si tel est le fait, dans le cas de pilules, comme on dit, mini-dosées. Je sais bien que c'est une question qui est un petit peu sujet à discussion, mais ce que je vous dis là, c'est ce qu'on m'a enseigné il y a 20 ans à Rome par des gens qui passent leur vie à faire de la recherche sur ces sujets-là. J'en ai reparlé avec Emmanuel Dumont qui a fait un doctorat sur l'avortement. Il semble quand même qu'il y a de fait des pilules qui sont tellement mini-dosées que le risque n'est pas petit, que ce soit surtout un effet antinidatoire qui joue. Je laisse Cécile réagir si elle a plus d'informations.
Pour parler des pilules, il y a une pilule qui est de façon sûre et certaine qui n'agit pas sur l'ovulation, c'est toutes les pilules micro-progestatives qui ne sont pas assez dosées, donc ça ne peut pas inhiber l'ovulation, donc ça agit que sur tout ce qui se passe post-fécondation. Donc toutes ces pilules, elles sont abortives, ça il faut le dire. Ensuite, donc, il y a les pilules œstroprogestatives, donc qui sont, il y en a qui sont normodosées et mini-dosées. Donc normalement, elles agissent toutes sur l'ovulation, mais pas a priori, pas à 100%. Voilà, donc il y aurait un doute sur des ovulations qu'on dit échappées, donc qui dit ovulation dit possibilité de fécondation. Donc ensuite. Possibilité de mettre, parce que la pilule agit aussi sur l'ovulation, mais aussi sur tout ce qui est post-fécondation, donc fécondation, toutes elles agissent sur l'endomètre, sur la trompe, quoi, sur la nidation, voilà, c'est ça, la migration de l'œuf jusqu'à l'endomètre et sur la nidation. Donc quand il n'y a pas eu ovulation, les effets post-fécondation vont se mettre en marche et vont être efficaces en fait, enfin a priori. Donc voilà, donc il y a quand même un doute qui reste, qui n'est pas quantifié, il n'y a pas eu de recherche suffisamment précise, voilà, pour dire pour dire des chiffres, quoi, pour dire quel est le pourcentage, que voilà, mais bon, il faut le savoir, quoi. C'est important pour nous.
Il faut aller jusqu'au bout d'un travail de vérité, hein. Comme dirait Jean-Paul II, dans le doute. J'ai pas besoin de souligner le fait que ce qu'on appelle techniquement la cryoconservation, c'est-à-dire la congélation des embryons humains, les expose, c'est le moins qu'on puisse dire, à de graves dangers de mort. Bon, je n'insiste pas là-dessus, vous êtes tous conscients de toutes les dérives aussi que ça entraîne, et des tentations d'en faire une matière pour des recherches, des utilisations. Ce que je voudrais souligner, c'est la question du diagnostic prénatal, qui est moralement licite seulement, comme dit le cardinal Ratzinger dans Dominum Vitae, si les méthodes utilisées avec le consentement des parents convenablement informés sauvegardent la vie et l'intégrité de l'embryon et de sa mère sans leur faire courir de risques disproportionnés. Alors c'est la question des risques disproportionnés. Alors je crois savoir qu'on a fait quand même des progrès dans la diminution des risques disproportionnés, Cécile. Des risques au niveau de diagnostic prénatal. Il y a de nouvelles méthodes. J'ai cru qu'on était en train de faire des progrès. Mais sinon, la méthode qu'on utilisait il y a encore quelques années, c'est un risque de l'ordre qui est de 1,5% à peu près.
Le risque est supérieur à proportion.
Hein?
J'ai entendu que le risque était supérieur au taux de, en l'occurrence, pour la trisomie, d'enfants trisomiques.
Oui. Il arrive souvent dans les choix humains qu'un certain risque doit être affronté, mais il faut vérifier s'il est justifié par une urgence vraie du diagnostic et par l'importance des résultats qui sont obtenus en faveur de l'embryon lui-même. Donc, on peut se dire, c'est qu'on est loin de vérifier, comme il signifie, qu'on a affaire à des risques proportionnés. Ici, je me permets de citer encore une fois cardinal Ratzinger, ou plutôt Benoît XVI, pour changer. L'amour de Dieu ne fait pas de différence entre celui qui vient d'être conçu et se trouve encore dans le sein de sa mère, et l'enfant ou le jeune, ou bien encore l'homme mûr et ou âgé. Il ne fait pas de différence, car en chacun d'eux, il voit l'empreinte de sa propre image et ressemblance.
Pour prendre un petit exemple concret auquel on est très souvent confronté en tant que couple, donc quand on attend un petit bébé, lors des échographies, il peut quelquefois y avoir une petite suspicion sur quelque chose, et du coup on peut être assez vite, on peut nous proposer de faire une amniosynthèse, et on rentre donc dans un geste qui n'est pas du tout anodin pour l'enfant, et peut-être c'est important de réfléchir à cette situation avant et de se dire, est-ce que je veux poser ce geste, est-ce que ça va m'apporter quelque chose de plus de savoir quel est le diagnostic réel pour l'enfant ? Quelle suite je vais donner à ce geste si on décide de le poser ? C'est important de réfléchir à ces questions, j'allais dire à froid, pour avoir la tête un petit peu construite, parce qu'on se retrouve devant un pouvoir médical qui est quand même très fort, et quelquefois on se retrouve soi-même affecté dans notre sensibilité profonde, et du coup on ne garde pas toujours la juste position qu'on souhaiterait.
J'hésite, mais je vais le faire quand même parce que j'en ai été témoin. À l'Hôtel Dieu, il y avait un service de psychiatrie et j'ai été amené à rencontrer une femme qui s'était retrouvée en psychiatrie après avoir été à la maternité de l'Hôtel Dieu. Elle était venue pour accoucher. On a fait une échographie, le médecin a vu une tache et il a dit qu'il fallait faire un avortement thérapeutique. Donc quand on est à 9 mois, un avortement thérapeutique, ça se fait avec une thérapeutique, l'hypocrisie du monde. Ça se fait avec une grosse seringue. Puis après, on enlève le cadavre et l'enfant n'avait rien. La femme, elle était en psychiatrie, complètement détruite. Le médecin n'est pas venu la voir, ni même s'excuser. Ça, c'est le monde des droits de l'homme. Hein ? Savoir que ça se passe comme ça. Donc ici, on en parle calmement, hein, mais ça doit être un sujet d'intercession pour les consciences qui ne sont pas éclairées, les cœurs qui ne sont pas fortifiés par la foi et l'espérance, et qui subissent la pression de la culture de mort. Nous reviendrons sur cette expression malheureuse d'avortement thérapeutique la prochaine fois. Je dis malheureuse parce qu'elle a trouvé jour d'abord à l'intérieur de la morale interne à l'Église. C'est-à-dire dans le cadre d'une personne qui, par exemple, doit être traitée au niveau d'un cancer, et qu'on sait qu'en traitant le cancer, on va, par un effet non voulu, provoquer la mort de l'enfant qu'elle porte, mais sinon elle meurt et l'enfant avec. En fait, à l'origine, voilà. C'est ça. À ce moment-là, on a parlé d'avortement thérapeutique, mais je reviendrai là-dessus pour montrer que l'expression, en réalité, au départ, était malheureuse et maladroite et pas juste. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'avortement. Mais c'est comme ça qu'il y a des déviations de concepts, d'expressions, qui sont réutilisées ensuite, maintenant d'une manière qui est proprement, je ne peux pas dire absurde, mais plus que mensongère. Bon. Alors, deuxième partie, la question de l'insémination de la fécondation artificielle. Je ne vais pas traiter la question de l'insémination de la fécondation artificielle hétérologue, parce qu'il me semble que toute conscience un peu éclairée peut percevoir que c'est contraire à la dignité des époux. Hétérologue, mais c'est...
dire dans le langage.
Hétérologue, c'est avec un donateur de sperme ou d'ovocyte, externe au couple, bien sûr. Oui. Et homologue, c'est les gamètes du couple, voilà, qui sont prélevés chacun de son côté.
Bon, de toute façon, le jugement de l'Église sur la procréation artificielle homologue rejaillit évidemment sur la procréation hétérologue. Nous avons vu que les parents sont appelés à coopérer à l'œuvre créatrice de Dieu, et nous avons précisé davantage ce soir que cette coopération, elle est dès le début la coopération à la réalisation de la prédestination. Je veux dire que les parents sont appelés à participer à l'œuvre de Dieu, non seulement au niveau naturel, au niveau du don de l'existence, du don de la vie humaine, mais aussi au niveau du don de la vie éternelle. Donc habituellement, on distingue la procréation et l'éducation, l'éducation étant plus un engendrement spirituel, mais si on y réfléchit bien, c'est dès le début que les parents doivent être instruments de la grâce, instruments de l'amour de Dieu pour l'enfant qu'ils portent. On sait très bien que l'enfant, dans le sein de sa mère, il est déjà dépendant spirituellement de ce que vit sa mère. C'est pas qu'un engendrement biologique. C'est dès le début un engendrement aussi spirituel. Surtout si on adhère à la pensée que dès la conception, il y a bien une âme spirituelle. Alors, ici je vous demande un effort d'attention. Nous avons vu que la création de l'âme spirituelle est le fruit de son amour, de l'amour de Dieu pour nous. Je dis que quand l'homme et la femme sont dociles à l'appel de Dieu, à leur vocation, quand ils suivent la loi naturelle inscrite en eux, et donc quand ils s'unissent vraiment l'un l'autre pour ne faire qu'une seule chair, selon le désir de Dieu, même s'ils ne sont pas toujours conscients de faire la volonté de Dieu, à ce moment-là, du fait qu'ils sont dans le dessein de Dieu, qu'ils sont dans l'abandon à Dieu, l'obéissance à sa volonté, ils demeurent dans l'amour de Dieu. Au sens où Jésus dit « Demeurez en mon amour ». Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. On pourrait aussi citer la parole, hein, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, présent au milieu d'eux. Donc il y a une présence particulière de Dieu, il y a un amour de Dieu qui est là, présent, cet amour qui est créateur et sauveur, qui est là présent avec les époux quand ceux-ci s'unissent selon la volonté divine. Et donc nous pouvons peut-être arriver à contempler le fait que quand l'homme et la femme s'unissent selon la volonté de Dieu, il se crée un espace de paix et d'amour à l'intérieur duquel va pouvoir être créée l'âme spirituelle. Je dis que c'est ainsi que la conception de la personne humaine se réalise concrètement et pleinement comme le fruit de l'amour de Dieu. À travers une union conjugale vécue selon Dieu et en Dieu. Mais ça peut être vécu même par des gens qui ne sont pas croyants. Parce que tout homme reçoit la grâce prévenante, comme disent les théologiens. Dieu offre sa grâce à tout homme, et tout homme de bonne volonté qui accomplit ce que Dieu attend de lui demeure quelque part enveloppé de l'amour de Dieu. Dieu est présent dans cet acte, de manière toute particulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'union conjugale, totale, corps et âme, dans lequel l'homme et la femme s'unissent selon le désir de Dieu, et se donnent l'un à l'autre selon le désir de Dieu, est le lieu, à la fois physique et spirituel, dans lequel la conception d'une personne prédestinée à la vie éternelle peut et doit se réaliser. Je dirais que dès sa conception, la personne humaine a besoin de baigner dans l'amour divin. Et elle baigne dans l'amour divin en étant le fruit de l'union de l'homme et de la femme, dans un acte d'amour qui engage toute la personne. Voilà pourquoi j'énonce le principe fondamental, l'acte de l'amour conjugal est l'unique lieu digne de la procréation humaine. Vous voyez, mais ce que je viens d'énoncer là, l'acte conjugal est l'unique lieu digne de la procréation humaine. Si on n'a pas le sens du sacré de la personne, du sacré de la conception, et du fait que tout est et doit rester enveloppé d'un mystère d'amour. On ne peut pas le comprendre vraiment. Alors, nous avions vu la dernière fois par rapport à la contraception que l'acte d'amour conjugal par lequel l'homme et la femme se donnent l'un à l'autre doit rester effectivement ouvert à la vie. Parce que leur union, l'union de l'homme et de la femme, est fondamentalement au service de la paternité de Dieu. Et c'est en acceptant de se vivre l'un et l'autre comme serviteurs de Dieu, en fait, que l'homme et la femme peuvent s'unir vraiment l'un à l'autre. En fait, c'est Dieu qui unit. Et donc, c'est en gardant leur amour ouvert à la vie que l'homme et la femme pourront s'aimer jusqu'au bout. Et ici, nous disons que la procréation, la conception d'une nouvelle vie doit être toujours le fruit de l'union. Donc d'un côté, il y a l'affirmation que l'union doit rester ouverte à la vie, et de l'autre côté, il y a l'affirmation que la vie doit rester le fruit de l'union. En fait, on peut résumer les deux en un seul principe, qui est qu'on ne peut pas séparer la signification unitive et la signification procréative de l'acte conjugal. Mais dit comme ça, ça paraît un peu abstrait. On ne comprend pas bien. En fait, si on développe, on comprend que tout ça se comprend dans la lumière de Dieu. Il s'agit donc d'un même principe en réalité. Ça veut dire concrètement que l'Église condamne toute technique procréative qui se substituerait à l'acte conjugal. Mais elle ne condamne pas des techniques qui aideraient l'acte conjugal. Si le moyen technique facilite l'acte conjugal ou l'aide à atteindre ses objectifs naturels, il peut être moralement admis. Quand l'intervention se substitue à l'acte conjugal, elle est moralement illicite. Tout ça est parfaitement cohérent. Ce n'est pas le côté artificiel en soi que l'Église interdit. Ce n'est pas un raisonnement par mode écologique. C'est la question de ne pas, priver le droit de l'enfant d'être conçu à l'intérieur. J'ai pas envie de dire de l'amour de ses parents, mais à l'intérieur de l'amour de Dieu à travers l'union de ses parents. En allant jusqu'au fond de la question. L'homme et la femme étant serviteurs, instruments de cet amour divin qui crée la personne, qui crée l'âme spirituelle au moment de la conception. Et donc, si l'acte conjugal est le seul lieu digne de la conception d'une nouvelle personne humaine qui doit et doit toujours rester le fruit de l'amour divin, eh bien, cette doctrine d'humanévité éclaire humanévité, la doctrine sur la contraception. En réalité, ce n'est pas étonnant puisqu'il s'agit d'un même principe. Et donc, ça veut dire que là où un homme et une femme s'unissent sans qu'il y ait une véritable union telle que Dieu l'a voulu et qui puisse être porteuse de son amour et de sa présence, non seulement on peut, mais on doit éviter la conception. Je maintiens qu'un acte de fornication n'est pas moins indigne qu'une insémination artificielle homologue. Quand je dis fornication, c'est deux adolescents qui font n'importe quoi avec leur corps. C'est pas moins indigne, c'est pas le lieu digne de la conception d'une nouvelle personne humaine. Pour les mêmes raisons que j'ai dites par rapport à ce qui serait une conception à travers une technique, un acte technique, qui ne pourra jamais remplacer ce lieu spirituel qu'est l'acte conjugal. Donc ce que j'ai dit la dernière fois par rapport à la contraception, ce n'est pas une exception à la règle, c'est une compréhension en vérité de ce que l'Église enseigne. Non, je laisse le droit à des théologiens de ne pas être d'accord, mais là-dessus, comme je vous l'ai dit la dernière fois, l'Église ne s'est pas prononcée, ça reste une question ouverte. Mais habituellement, la voix qu'on entend le plus, c'est la voix la plus dure. Mais c'est pas la voix de l'Église pour autant, cette voix dure qu'on entend quelquefois et qui scandalise quelquefois parce qu'on a l'impression que l'Église est en dehors de la réalité de la vie. Alors, voilà. Vous voyez qu'il faut creuser les questions jusqu'au bout pour arriver à préciser le champ d'application d'une loi. Ça va, vous tenez le coup ? Bon. Par rapport à la doctrine d'humanité que je viens de résumer dans sa fine pointe, beaucoup ont tendance à dire que du moment qu'il y a une vie d'amour entre l'homme et la femme, c'est pas nécessairement qu'il y ait besoin de l'acte d'amour conjugal et que l'enfant reste de toute façon quelque part, de toute façon, le fruit de cet amour qui se vit dans la vie quotidienne. Je réponds que le moment de la conception est sacré et qu'il est essentiel. Et c'est ce qui se passe au moment de la conception qui a une importance essentielle, puisqu'il est, c'est le moment vraiment où cette création d'un esprit fait pour Dieu, capable de Dieu, doit se faire en étant, je le redis, enveloppé d'un mystère d'amour. D'un mystère d'amour qui trouve son signe, qui trouve son lieu dans l'union de l'homme et de la femme. L'union en acte et dans le moment même. Je rajouterai aussi une chose, c'est qu'il n'est pas question d'abord des sentiments humains ici. C'est pas d'abord la question de savoir si on éprouve de grands sentiments pour l'autre. C'est plutôt la question que l'acte conjugal soit posé dans une adhésion à la volonté de Dieu. Je dirais comme deux serviteurs qui accomplissent leur mission, leur service de la vie. C'est cette adhésion à la volonté de Dieu en respectant la loi naturelle qui va permettre cet enveloppement par l'amour divin. Ce que je veux dire, en fait, c'est que l'acte conjugal devrait être posé saintement, devant Dieu, face à Dieu, comme un service de la paternité de Dieu. Et ça, en réalité, ça traverse les religions et les cultures. Ce sentiment qu'il y a au moment où on pose les conditions d'une nouvelle vie, quelque chose de sacré, où Dieu est présent, et que cette présence de Dieu, encore une fois, elle demande à être servie en restant dans, je dirais, fidèle à son dessein, que cette nouvelle vie donc puisse être vraiment le fruit d'un acte d'amour total. J'ai essayé de faire une petite analogie, ça c'est une petite parenthèse, ça n'engage que moi. C'est pas le cardinal Ratzinger. Mais si on prend l'analogie entre l'union de l'homme et de la femme et l'union du Christ et de l'Église, en Éphésiens 5, on peut comprendre que l'Église, elle n'est féconde, l'Église, elle ne peut donner la vie, l'Église, que dans son union au Christ. Dans l'Église, la vie est toujours le fruit de l'union. Dans cette petite Église qu'est la famille, la vie doit toujours être le fruit de l'union. Et l'analogie continue entre la famille et l'Église. Et l'équivalent de l'acte conjugal, j'ai envie de dire, comme acte concret, c'est la communion eucharistique, où l'époux se donne effectivement et réellement à l'épouse, lui donne son corps. Et l'Église vit de l'Eucharistie. Et l'Église est féconde grâce à l'Eucharistie. Et l'Église ne peut pas porter de fruits sans l'Eucharistie. Voilà, j'en reste là au niveau de l'analogie. Mais vous voyez que c'est dans ce regard à partir du mystère qu'on comprend toute la profondeur de ce que l'Église enseigne et qu'elle enseigne dans, en définitive, éclairée par Dieu, éclairée par la foi, je dirais, face à un monde qui refuse de reconnaître le Créateur et qui donc se bute sur le mystère, hein, il faut bien le dire. Alors, le monde bute sur le mystère, il refuse de dépendre de Dieu, c'est ça le péché de l'homme moderne, hein, c'est la proclamation de son autonomie. Et donc, il vit, il agit comme s'il était son propre créateur, et donc, forcément, il est tenté de maîtriser la vie. Il y a un livre qui est sorti il y a peut-être 40 ans, qui s'appelait « La vie par-dessus tout ». Écrit par haut responsable de la franc-maçonnerie, autant le dire simplement. Et l'introduction s'est montrée qu'il faut absolument désacraliser la vie et en faire une matière que la société gère. Et ensuite, dans des pages tout à fait géniales, il est expliqué qu'à partir du moment... Oui, non, mais qu'est-ce que je dis il y a 40 ans? Ça a été écrit dans les années 50. Qu'à partir du moment, au début 60, à partir du moment où on aura gagné la bataille de la contraception, on gagnera facilement l'avortement et on pourra procéder à des manipulations génétiques. Ben oui, à partir de la désacralisation de la vie. Oui, il y a des gens qui sont intelligents, qui comprennent la logique des choses. C'est un livre qui a été supprimé de la circulation, mais que j'ai lu chez les bons pères jésuites parce qu'ils avaient repéré que là, touchait un fil rouge. Oui, ben on a le même fil rouge. Non, on réaffirme, et c'est le moment de réaffirmer plus que jamais le caractère sacré de la vie. C'est l'orgueil, dit le cardinal Ratzinger, qui nous fait penser que nous avons la capacité de produire l'homme. Évidemment, si l'homme n'est pas le fruit de l'amour de Dieu, à travers de l'amour de l'homme et de la femme qui se donnent dans l'acte conjugal, ben, il est produit par l'homme à ce moment-là. Il n'est pas un fruit, il est un produit. Ici, je me permets de prier avec le cardinal Ratzinger, la troisième station du chemin de croix du Vendredi Saint 2005, la veille de la mort de Jean-Paul II. Écoutez, on va la prier cette prière. Seigneur Jésus, le poids de la croix t'a fait tomber à terre, le poids de notre péché, le poids de notre orgueil t'a terrassé. Mais ta chute n'est pas le signe d'un destin hostile, elle n'est pas la pure et simple faiblesse de celui qui est outragé. Tu as voulu venir à nous, nous qui, en raison de notre orgueil, gisons à terre. L'orgueil qui nous fait penser que nous avons la capacité de produire l'homme, a contribué à ce que les hommes soient devenus une sorte de marchandise, pouvant s'acheter et se vendre, tel un réservoir de matériaux pour nos expérimentations, grâce auquel nous espérons vaincre la mort par nous-mêmes, alors qu'en vérité nous ne faisons rien d'autre qu'humilier toujours plus profondément la dignité de l'homme. Seigneur, aide-nous parce que nous sommes tombés. Aide-nous à abandonner notre orgueil destructeur en apprenant par ton humilité à nous relever de nouveau. Vous allez me dire que cet orgueil de l'homme qui veut prendre la place du Créateur, produire lui-même l'homme, c'est surtout, je dirais, du côté du monde médical. C'est indéniable. Et on pourrait rajouter que c'est un orgueil essentiellement masculin, même, j'ai envie de dire. Hein, dans le faire. Mais comme le fait remarquer le cardinal Ratzinger, même si cette dynamique de violence et de domination peut n'être pas perçue par ceux-mêmes qui, en voulant l'utiliser, s'y assujettissent. C'est-à-dire que malgré soi, du fait que ces techniques en réalité sont l'expression d'une volonté de puissance qui a sa racine dans l'orgueil humain, malgré soi, en les utilisant, on est entraîné dans une dynamique de domination. C'est la même chose que la pilule. Même si au départ on a le cœur assez ouvert à la vie, disons même ouvert à la vie, le fait d'utiliser un moyen qui est radicalement opposé objectivement, un langage contradictoire, objectivement contradictoire à cette ouverture intérieure à la vie, fait que notre ouverture de cœur va être abîmée. Parce qu'on ne peut pas séparer les dispositions du cœur et les gestes du corps. Et ça, c'est une remarque et en même temps un avertissement à tous ceux qui pensent pouvoir se servir de ces méthodes sans être atteints par, j'ai envie de dire, le virus spirituel qui les anime. Ces pratiques, à leur tour, renforcent une conception matérialiste et mécaniste de la vie humaine. Alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on est en état de mesurer les conséquences de cette, je dirais, de ce drame spirituel sur l'évolution de l'enfant, sur les parents, sur le couple. Alors, je vais laisser parler Josiane sur la question d'abord des répercussions. Je crois au niveau de la fivette.
Il y a beaucoup de répercussions. Enfin, on s'intéresse quand même de près aujourd'hui à la souffrance de l'homme et de la femme qui traversent l'épreuve de la stérilité. Et on s'intéresse de près aussi à l'impact de ces techniques de procréation artificielle sur le développement psychologique de l'enfant. Alors on s'est aperçu de plusieurs choses, je m'appuie là-dessus, notamment sur les travaux de Benoît Bell, qui écrit un livre qui s'appelle « À la poursuite de l'enfant parfait ». Et il explique qu'on constate, quand il y a eu congélation d'embryons, et donc il y a eu un enfant qui a pu naître de ces différentes congélations, il cite l'exemple d'un petit garçon, les parents ont attendu cet enfant, l'ont tiré, et c'est vrai que c'est un problème... Quand il y a un tel désir des parents, une telle attente. Et ce petit enfant est arrivé et était un enfant très colérique, qui n'arrivait pas du tout à le tenir dans des limites. Et les parents disaient, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a joué avec le feu, on en paye le prix, et c'est vraiment insupportable. Et en fait, ce petit enfant ne connaissait pas son histoire. Et il ne savait pas comment il avait été conçu. Et son père, un soir, avoue, ne sachant plus que faire de lui, lui a dit, mais... tu sais, peut-être tu peux dormir tranquille parce que il y a des petits anges qui veillent sur toi. Et en fait, il lui a raconté que oui, il y avait des frères et sœurs quelque part. Hein. Et donc, il y a toute une fratrie qui était comme ça, tous les autres embryons congelés. Et l'enfant avait conscience qu'il avait été choisi. Enfin, choisi. On se demande, enfin, c'est l'impression qu'il pouvait avoir. Et donc c'est assez traumatisant pour ces enfants-là, parce que qu'est-ce qui fait que moi j'ai été choisie? Est-ce que je suis à la hauteur du désir de mes parents? Est-ce que je suis à la hauteur du fait d'avoir été choisie? Et on se retrouve, pour certains de ces enfants, enfin, peuvent vivre un peu le syndrome des survivants, des camps de concentration. Hein, pourquoi est-ce que je suis le survivant? Donc ça va assez loin. Et ça a un impact, comme on sait aussi que dans une fratrie, s'il y avait un avortement, ça a un impact sur les autres enfants. Et ça a aussi un impact dans l'imaginaire du couple, ça a aussi un impact dans la vie quotidienne d'une maman qui disait qu'elle avait été obligée de pratiquer une réduction embryonnaire, elle avait ses jumeaux, mais elle voyait toujours la petite fille qu'elle n'avait pas su, ça la montait complètement dans sa vie quotidienne.
Je vais donner un exemple que j'ai rencontré parce que je suis puéricultrice, et un jour dans le service de pédiatrie on voit arriver un couple avec un petit enfant de 4 mois, et puis sur le dossier de l'enfant c'était marqué enfant précieux. En fait c'était un couple qui avait eu des problèmes de stérilité, qui avait eu recours à plusieurs FIV, et finalement donc ce petit bébé était issu d'une FIV. Et puis donc la grossesse avait été très très suivie, et comme toujours dans ces cas-là, amener une synthèse pour savoir s'il n'y avait pas de malformation, si tout était bien. Bon. Et puis ce petit enfant arrive à 4 mois dans notre service, et en fait il avait une grosse pathologie au niveau du cerveau. Et excusez-moi, je suis un peu émue. Et puis ce petit enfant en fait allait pas bien, et il a été abandonné par ses parents. Et en fait, il est mort abandonné par ses parents un mois après dans une pouponnière. Pour montrer en fait que ce couple en fait désirait un enfant à tout prix, et le désirait d'une certaine façon, tel qu'il voulait qu'il soit, et pas autrement.
Quelle est la répercussion sur le psychisme et sur le cœur de l'enfant de ce grand vide que représente la substitution de l'acte conjugal par un acte technique ? C'est une question à laquelle on ne peut pas encore répondre pleinement. Et je crois que l'expression « grand vide » est juste. On ne peut pas dire « grand froid ». Maintenant, oui.
Oui, d'ailleurs, on s'est aperçu que pour certains de ces enfants, soit ils pouvaient avoir des problématiques mégalomaniaques, parce qu'on les a tellement désirés que... En plus, certaines mamans disaient, mais avec tout ce qu'il a réussi à traverser comme épreuve, cette petite fille conçue de cette façon est vraiment un être extraordinaire. Et donc l'enfant se trouve comme ça investi d'une certaine, malgré lui, une certaine mégalomanie. Ou bien aussi, du coup, ces enfants-là peuvent ressentir le vide parce qu'ils peuvent aussi tomber dans une forme de dépression. Est-ce que je vais être à la hauteur? D'où je viens? Qui suis-je? Souvent comme des problèmes d'identité assez fortes.
Bien. Donc Philippe me demande de poser la question, que dire de la prédestination quand la procréation se déroule en dehors de l'acte conjugal? Écoutez l'Église. Bien qu'on ne puisse pas approuver la modalité par laquelle est obtenue la conception humaine dans la fivette, tout enfant qui vient au monde devra cependant être accueilli comme un don vivant de la bonté divine et être éduqué avec amour. Ça s'appelle avoir foi en une providence divine qui est en même temps celle d'un amour miséricordieux, qui intègre tous les égarements de l'homme. Vous voyez, elle fait, l'Église fait tout un développement, une quarantaine de pages, pour expliquer que c'est contraire à la sagesse de Dieu, que c'est contraire à la dignité de l'enfant, que c'est contraire à ce qui est ce mystère d'amour qui est à l'origine de la vie. Et elle conclut en disant: tout enfant qui vient au monde, même par la fivette, devra être accueilli comme un don vivant de la bonté divine. Ça, c'est la foi. On n'arrive pas bien à comprendre. Hein. Mais c'est la miséricorde qui est toujours là pour... Rien n'échappe à l'amour miséricordieux de Dieu, à cet amour éternel. Quelle que soit la conception, la manière dont l'enfant a été conçu, en réalité, il est repris dans le mystère de la rédemption. En réalité, c'est ça que ça signifie. C'est Jésus intègre tout dans sa passion. Moi, je dis qu'il y a un grand vide au moment de la conception, mais que Jésus est descendu dans tous nos vides pour nous tirer vers le Père dans ce vide. Et je repense à saint Paul, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Il faut espérer que dans un monde qui a perdu le sens de Dieu et la paternité de Dieu, le sens de la procréation, eh bien, la grâce surabonde, c'est-à-dire que ces enfants qui sont été le produit de la technique humaine et aussi de quelque part de l'orgueil humain, eh bien, par le don de l'Esprit Saint, puissent découvrir dans leur cœur cette paternité divine. C'est là où l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint de vérité peut être invoqué comme notre défenseur par rapport à la folie du monde. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur les effets que ça peut avoir sur la vie du couple, sur le cœur de la femme aussi, pas seulement sur l'enfant. Mais je voudrais terminer simplement sur la question de la stérilité. La question de la stérilité, parce que accepter ce qu'enseigne l'Église, ça peut pour certains couples signifier accepter la stérilité. La relation conjugale, comme la relation parentale, la relation à l'enfant, la relation au conjoint, sont des relations vitales et fondamentales. Un célibat non choisi, une stérilité imposée à la circonstance de la vie, ça touche l'homme dans quelque chose de très profond dans son cœur, puisque spontanément c'est là qu'il cherche la vie et qu'il cherche le bonheur, la réalisation de lui-même. Je dis que cette épreuve de la stérilité, comme l'épreuve du célibat, comme l'épreuve du divorce, c'est autant de failles par lesquelles Dieu nous appelle à vivre d'abord de cette relation encore plus fondamentale et plus vitale qu'est la relation à notre Créateur et Sauveur. Et en même temps que l'on découvre qu'il y a une relation plus vitale et plus fondamentale qui peut se vivre au fond de notre cœur et que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour du Christ, on est appelé à découvrir qu'il y a aussi une fécondité plus profonde encore que la fécondité d'une union conjugale vécue dans l'amour de Dieu, une fécondité plus grande encore que la fécondité de la croix. Mais à ce moment-là, on ne peut s'en sortir qu'en acceptant de passer sur une autre rive. D'avoir à reconsidérer complètement le sens de sa vie. Et ceux qui acceptent de passer avec le Christ sur l'autre rive, j'en suis témoin parce que ça fait 5 ans que j'accompagne un couple de personnes divorcées, et je peux penser que c'est des preuves, je dirais, équivalentes à celles de la stérilité. Ceux qui acceptent de se laisser conduire par le Christ sur l'autre rive, bien, non seulement ils ne regrettent pas, mais ils rendent grâce à Dieu d'avoir pu connaître cette épreuve qui les a obligés à aller plus loin, en définitive, dans le chemin de l'amour pour lequel nous avons été créés. Les époux qui, après avoir épuisé les recours légitimes à la médecine, souffrent d'infertilité, s'associeront à la croix du Seigneur, source de toute fécondité spirituelle. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.